Salut et merci d'écouter À ta santé, le podcast qui parle de santé simplement, accessible à tous et loin du jargon incompréhensible de l'hôpital. Dans chaque épisode, je reçois un invité afin qu'il ou elle nous parle de son expérience. Ce podcast est l'occasion de donner la parole à ceux que l'on entend trop peu. Je pense aux patients, mais aussi aux professionnels de la santé. Et pour ce deuxième épisode, mon invité c'est Marion Adeline. Elle a 23 ans, elle est étudiante en STAPS. Elle a écouté le premier épisode avec Anne et elle m'a envoyé un message. Elle m'a dit qu'elle aimerait beaucoup participer. Le thème qu'elle a envie d'aborder avec nous aujourd'hui, c'est la boulimie. Je la reçois aujourd'hui. Je vous souhaite une bonne écoute. Salut Marion.
Salut Théo.
Comment ça va?
Ça va et toi?
Bah super. Tu m'as envoyé un message, comme je disais dans l'intro, pour participer à ce podcast. Le sujet que tu as envie d'aborder, c'est la boulimie.
C'est ça.
Est-ce que tu peux, dans un premier temps, nous dire ce que c'est ta boulimie? Je précise, pour les auditeurs du podcast, l'idée, c'est pas de parler de la boulimie en général, tu vas nous parler de ta boulimie. Et donc, si jamais vous écoutez et vous êtes atteint de boulimie, c'est bien atteint?
Oui.
Ça va, ok. Donc si vous êtes atteint de boulimie, vous ne sentez pas visé, si vous ne vous reconnaissez pas, il y a autant de boulimie qui existe que de personnes. Donc est-ce que tu peux nous parler de ta boulimie?
Oui. Alors la boulimie, la manière dont je l'ai vécue, c'était un rapport pathologique à la nourriture et à la vision de mon corps. J'avais une vision un peu déformée de mon corps, je me sentais mal dedans, je voyais trop de points négatifs. Je me sentais pas du tout bien dans mes baskets. Et à côté de ça, je pouvais pas m'empêcher, si c'est pas forcément d'engloutir de la nourriture toute la journée, en tout cas de grignoter toute la journée. Et après, en plus, de faire des crises de boulimie. Et c'était un peu incontrôlable, en fait. C'est un petit ordre, non pas de ton estomac, mais un peu d'un petit bonhomme dans ton cerveau qui va te dire, là, faut que tu manges et tu peux pas trop résister. En tout cas, au début, quand t'es vraiment en plein dans la pathologie, parce que c'est une pathologie, pas une maladie.
Et toi, est-ce que c'est arrivé à quel âge? Est-ce que tu sais à peu près à quel moment
J'aurais dit, il y a quelques mois, que ça a commencé à 18 ans, mais en fait, je pense que ça a commencé à mes 17, parce qu'on va se dire que la boulimie, c'est forcément trop manger et se faire vomir derrière, alors que non. Comme je l'ai dit tout à l'heure, moi, c'était un rapport aussi pathologique à la nourriture et à la vision de mon corps. Donc, ça a commencé quand j'avais 17 ans. Moi, je suis quelqu'un de nature très gourmande de base, donc depuis que je suis toute petite. Et quand j'étais en terminale, du coup, j'ai commencé à me rendre compte un peu de l'image du corps, de comment je me voyais, comment les autres me voyaient, alors qu'avant ça, absolument pas, j'en avais rien à faire. Je m'habillais comme je voulais m'habiller, je faisais un peu attention quand même pour ressembler à une fille. Mais au collège, par exemple, j'étais plutôt garçon manqué parce que je faisais pas trop attention à la manière dont je voulais m'habiller. Et ça a commencé début terminale. En fait, c'est un été où on m'a fait prendre conscience que j'avais perdu du poids, qu'on me trouvait jolie comme ça. C'était en fait l'année d'avant, je commençais le volley. Donc du coup, je commençais le sport de manière régulière. Donc forcément, ça a eu un impact sur mon apparence. Et voilà, donc cette année de terminale a été très difficile pour moi parce que j'ai perdu trois de mes grands-parents dans la même année. Ma maman n'allait pas bien du tout, mon papa non plus. C'est en plus une année assez charnière parce qu'on te demande de savoir ce que tu veux faire tout de suite après le bac. Tu passes en plus le bac, les profs te foutent la pression. Donc moi, il y avait tout ça qui venait se mélanger dans ma tête. Et je pense que mon échappatoire, c'était la vision de mon corps, agir pour que je ne grossisse pas, être jolie. C'était, je pense, une manière de fuir un peu et de me concentrer un peu sur autre chose que les choses qui me prenaient la tête. Et en plus de ça, de manière un peu ironique, au lycée, j'étais comme cul et chemise avec une copine qui, elle, est tombée dans l'anorexie. Donc, c'est un peu avec elle que j'ai démarré le fait de pas trop manger pour pas grossir, de privilégier la marche plutôt que le métro, les escaliers plutôt que l'ascenseur pour faire le moindre petit sport qui, au début, je m'en rendais pas compte. Et aujourd'hui, quand j'en parle, je me dis que pour elle, ça devait avoir un impact tellement plus important que pour moi à l'époque parce qu'elle était, elle, déjà en plein dans la maladie. Et voilà. Après, toute cette année de terminale, c'était plus axé sur le fait de ne pas grossir, sans forcément me nourrir à m'en péter l'estomac. En revanche, ça a commencé à la fin de mon terminale, juste avant de reprendre ma première année post-bac, un jour où je pars en voyage avec des copains, et en fait, on prend l'apéro, on mange, on dîne, et en fait, j'ai beaucoup, beaucoup trop mangé, et je me suis sentie super mal. Et je me suis dit, là, il faut que je fasse quelque chose, que j'avais chaud, j'avais mal au ventre, hein, c'était horrible. Et j'ai été aux toilettes. Et pour la première fois de ma vie, je me suis fait vomir. J'ai provoqué les vomissements de manière non naturelle, du coup. Et à partir de ce moment-là, je me suis dit, ah, en fait, quand on mange trop, se faire vomir, ça peut être une solution. Et ça a commencé comme ça. Après, derrière, j'ai pas refait de crise spécifiquement. En plus, à ce moment-là, j'avais pas conscience que c'en était une. J'ai refait une crise plusieurs mois après. L'idée du corps était toujours là, l'idée de vouloir plaire physiquement était toujours là, mais c'est seulement plusieurs mois après que la boulimie en elle-même a vraiment démarré. C'est-à-dire que j'ai à nouveau mangé, et en fait je me souviens même que la première fois que j'ai recommencé, c'était même pas avoir trop mangé, c'était de me dire ce que j'ai mangé ça me fait grossir, du coup je vais aller purger, on dit que c'est une purge de se faire vomir. Et voilà. Et à partir de ce moment-là, par contre, ça a été la dégringolade et crise sur crise et ça s'est enchaîné.
T'arrivais à te faire vomir combien de fois par semaine à peu près ?
Après, ça dépendait des périodes parce qu'il y a eu un moment où j'ai eu un pic de boulimie, mais ça pouvait aller jusqu'à tous les jours. Il y en a, ça, après, donc du coup, chaque boulimique vit sa boulimie de manière différente. Il y en a, ça va être plusieurs fois par jour pendant plusieurs temps.
Ouais, moi personnellement, c'est la vie que j'en avais. C'est l'image que je me faisais de la boulimie, ouais.
Ben, pas forcément.
Okay.
Après, je considère, après avoir lu plusieurs livres, après... Enfin, c'est surtout des livres, en fait, parce que des témoignages vidéo, il n'y en a pas tant que ça. Mais c'est surtout après avoir lu des livres et tout que je me suis rendu compte qu'en fait, j'avais quand même un assez faible degré de boulimie qui était quand même... qui a pris quand même une énorme place dans ma vie. Mais effectivement, il y en a, c'est tous les jours, plusieurs fois par jour. Moi, c'était plusieurs fois par semaine. C'est déjà arrivé de le faire tous les jours de la semaine, mais c'était plutôt rare. On va dire que c'était plutôt 4 à 5 fois par semaine. Mais ce qui est déjà plutôt prenant. Enfin, parce que ça a un effet très négatif sur le moral, sur la forme physique. T'es hyper... quand tu sors d'une gastro, t'es crevé, clairement. Bon, après, c'est un enchaînement. Une gastro, ça dure plusieurs heures d'intensifier. Mais rien que de se faire vomir une fois, c'est hyper fatigant pour le corps parce que ça demande énormément d'efforts et ça a quand même des effets assez négatifs. Donc, 4 à 5 fois par semaine, ça suffit quand même pour être fatigué et être un peu au bout, quoi.
On s'est appelé une fois, enfin pour préparer le podcast, on s'est appelé et il y a une chose que tu m'as dite. Tu m'as dit que toi, tu avais conscience de ta boulimie très rapidement.
Mm.
Je trouve ça intéressant, c'est-à-dire que, encore une fois, c'est ma vision de personne qui n'est pas dans, qui a pas de trouble du comportement alimentaire, mais ma vision, c'est plutôt de se renfermer et d'être dans le déni. Alors que toi, pas du tout. Tout de suite, tu as pu identifier que tu étais boulimique et tu as pu trouver des solutions.
C'est vrai que c'est hyper... Bah, en fait, même moi, je me dis que c'est hyper étrange parce qu'effectivement, ce qu'on va se dire et ce qu'on lit beaucoup sur les TCA en général, c'est qu'il y a énormément de déni. Après, moi, je m'en suis rendu compte... Alors, la terminale, j'étais en terminale l'année 2013-2014 et ma première année post-bac, pardon, c'était 2014-2015. On va dire que tout début 2015, j'ai commencé à vraiment sombrer dans la pathologie. Et dès les premiers mois... je me suis dit, c'est quand même pas normal comme comportement. En plus, je l'avais déjà vu dans des films, pas beaucoup, mais ça m'est venu tout de suite, cette idée de me dire que c'était peut-être un comportement boulimique. Et en fait, j'ai commencé à regarder sur Internet, alors ce qui normalement, faut pas du tout faire, mais mine de rien, pour le coup, ça m'a quand même aidé à en prendre conscience. Et je me suis dit, ok, là, je crois que je le suis bien. Et... ouais, donc 3-4 mois après les vrais débuts, tout début 2015, je me disais, et je me souviens qu'à l'époque, j'étais avec un copain à qui j'en ai parlé et qui m'a pas du tout pris au sérieux. Prise au sérieux.
C'est-à-dire ?
Ben, je pense qu'il se rendait pas trop compte. Lui-même était très dépendant du cannabis. Du coup, il était un peu dans... sa propre dépendance, mais je pense qu'il s'en est pas trop rendu compte, c'est-à-dire que j'essayais de lui faire comprendre que grignoter devant moi c'était hyper difficile pour moi parce que j'essayais de m'en empêcher, mais du coup que j'allais le faire aussi parce que j'avais à ce moment-là aucune résistance, capacité de résistance, donc les gens n'ont pas, ouais, c'est dans la tête des gens, c'est pas forcément évident que ça peut être grave et ils se disent juste qu'il faut arrêter de grignoter et puis c'est tout, alors que ça va bien plus loin que ça.
Oui, parce que du coup, c'est un... Tu l'as dit en début de podcast, c'est un rapport pathologique avec la nourriture.
C'est pas contrôlable.
Et de dire le mot pathologique, je trouve que c'est important parce que oui, j'ai déjà entendu dire et tu le dis aussi, bah oui, mange moins, fais attention, et comme si ça allait changer les choses. Et comment toi, tu as réussi à t'en sortir? Déjà, est-ce que tu t'en es sorti?
Oui, je m'en suis sortie, heureusement. Alors, il faut savoir que moi, donc, première année post-bac n'avait rien à voir avec les études que je fais actuellement. J'ai fait une réorientation, donc début 2015, je suis entrée en STAPS. Première année de STAPS. Et cette année de STAPS a été le pic de la boulimie. C'est-à-dire qu'en fait, quand tu rentres en STAPS, déjà, tu as beaucoup de pratiques sportives, de tous les sports, tous les styles. Et du coup, ben, on te note. Et quand tu es boulimique, il faut savoir que tu n'as pas du tout confiance en toi. Tu as une confiance en toi qui est inférieure à zéro. Donc, c'est hyper difficile. Et en fait, je me comparais à tous, même à tous, même aux garçons, je veux dire, dans la pratique, et surtout aux filles, dans l'apparence. Du coup, j'étais là, mais elle est vachement plus jolie que moi. Moi, c'est pas du tout ça. Je m'aime pas. Enfin, du coup, t'es sans cesse dans la comparaison. Et ça a été comme ça pendant toute mon année de STAPS. En plus, tu le gardes pour toi parce que t'as honte. Du coup, t'en parles pas. T'oses pas en parler. Surtout quand on a tenté des fois d'en parler et qu'on te prend pas au sérieux. Bah, ça te réfrène encore plus. J'en ai parlé à. Ce qui m'a aidé à en parler, c'est que j'en ai parlé à mon parrain de fac. Milieu de ma L1, parce qu'il y a un moment où ça allait pas du tout, j'ai littéralement pété un câble. Je suis partie 10 jours, j'ai pas fêté Noël avec ma famille tellement ça allait pas. Je suis partie 10 jours à la montagne, c'est le seul endroit où je me ressource. Et je suis partie 10 jours avant ça, je lui en ai parlé pour qu'il sache pourquoi j'allais pas donner de nouvelles pendant un certain temps. Et il m'a dit un truc quand même qui m'a vraiment marqué et qui m'a aidé derrière à débloquer, c'est écoute, ce qui est important pour moi, donc ce qui est important pour toi est important pour moi. Et c'est là, à ce moment-là, parce qu'au début, j'ai mis 1 heure, je pense, 40 minutes d'aller pour commencer à lui en parler. Et là, je lui ai dit, bah voilà ce qui se passe, je suis boulimique, voilà ce que c'est. Je sais, honnêtement, je ne sais pas s'il a compris tout de suite, mais ce qui est sûr, c'est qu'il m'a accompagnée. Enfin, d'encouragement, je pense que tu es dépourvu hein, quand tu ne connais pas la pathologie, tu ne peux pas dire, bah tu fais ci, ci, ci. Et ça, mais au moins, il m'a écoutée. Il a été présent et rien que ça, c'était un petit déclencheur pour me dire ok, je peux en parler. Et derrière ça, j'en ai parlé à une amie parce qu'on allait partir au ski. Je me suis dit, il faut que quelqu'un soit au courant, quelqu'un dans ma chambre qui m'aide peut-être à me guider. J'en ai parlé à ma meilleure amie de l'université à l'époque. Et c'est à partir de ce moment-là que j'ai commencé à en discuter. Sachant que plus tôt, ma maman, je lui en ai parlé quand même assez tôt, juste avant de rentrer en STAPS.
Tu leur en as parlé avant.
Ouais, avant ma mère était la première au courant.
Ok, avant tes amis.
Ouais, avant mes amis. Donc ça, pour le coup, on recule encore. C'était avant de rentrer en STAPS. Donc il a très bien accepté. Enfin, dans le sens, elle m'a pas dénigré, hein, mais accepté en tant que maman que ta fille est boulimique. Je pense que c'est compliqué, mais en tout cas, elle m'a bien accompagnée. Donc mes parents étaient au courant. Je lui ai demandé d'en parler à mon père, parce que je ne voulais pas en parler à mon père, non pas parce qu'il aurait pas été réceptif, mais parce que j'y serais pas arrivée, je sais pas pourquoi, je le sentais pas. Alors que je suis très très proche de mon papa, hein, j'ai aucun problème relationnel avec lui. Donc mes parents étaient quand même au courant. Ma mère voulait que je voie une psychothérapeute, elle m'a proposé. Moi je voulais absolument pas. Parce que, ben, à cause d'antécédents familiaux, je me suis dit, mais. On va me déclarer dépressive, j'ai pas envie d'être dépressive, quand bien même ça se trouve, c'était le cas à l'époque, je voulais pas le voir en face des yeux. Je sais pas si ça se dit, mais c'est pas grave. Et du coup, elle m'a pas forcée. Donc j'ai pas été contrainte. Par contre, le premier réflexe que j'ai eu, donc encore une fois avant de rentrer en STAPS, c'est d'aller voir une nutritionniste. Je serais tentée de dire de ne jamais faire ça quand on a atteint le TCA parce que c'est encore pire. Surtout quand on est très focalisé sur l'image de son corps et la confiance en soi. Quand bien même la première séance s'est bien passée, parce qu'elle m'a refait confiance. La nutritionniste m'a fait prendre confiance en moi en me disant à l'époque je faisais 58 kilos. En me disant que c'était rien comme poids, enfin que c'était très bien pour mon âge, ma taille. En plus, j'étais déjà assez musclée parce que je faisais déjà du sport. J'avais très peu de matière grasse parce qu'il m'a fait peser sur sa balance un peu bizarre que tous les nutritionnistes ont. Donc j'étais ressortie là positive. Par contre, la seule chose qu'elle m'a dite, c'est pour la semaine prochaine, la séance suivante, tu restes à ton poids. C'est tout. Je suis arrivée la séance d'après, j'avais déjà 2 kilos en plus.
Ouais, en fait, elle a pas vu. Enfin, elle a eu une approche perte de poids, alors que toi, tu avais une approche différente.
Ouais.
Toi, tu venais pour parler d'un trouble du comportement alimentaire, et elle s'est dit, il faut qu'elle perde du poids.
Non, non, elle s'est pas forcément dit faut perdre du poids, faut qu'elle se maintienne. En plus, je lui ai dit, quand je suis arrivée, je lui ai exposé la situation, vu que j'en avais déjà conscience. Donc, en plus, elle, elle était gymnaste, donc forcément, elle maîtrisait un peu le sujet des TCA. Je pense qu'elle avait déjà eu des patients qui étaient dans ce cas-là. Mais du coup, je pense pas qu'elle ait cherché à me faire perdre du poids, parce que déjà, j'étais bien. Elle m'a même fait comprendre que si je perdais beaucoup de poids, je pouvais devenir maigre, et c'est... ça pouvait être moche, contrairement à ce qu'on peut se dire. Et du coup, non, non, je pense pas. Je pense qu'elle pensait pas à mal, mais déjà, une nutritionniste, elle est pas faite pour régler le problème de TCA, hein, clairement pas. Et donc, je suis arrivée donc, de séance en séance, bien qu'elle ait essayé de m'instaurer une régularité alimentaire, je prenais de plus en plus de poids, et j'ai pris entre 4 et 6 kilos à cette époque et cet été-là, du coup, ce que je l'ai vu l'été. Et au bout d'un moment, elle m'a dit, et ça donc juste avant que je reprenne le sport en STAPS, je peux rien faire pour toi si tu vas pas voir un psy. Parce que c'est pas moi qui vais pouvoir t'aider à régler ton problème. Elle m'a dit par contre, il faut peut-être que tu le fasses assez vite parce que ça devient dangereux pour ta santé. Parce qu'à force de te faire vomir, tu peux te créer une crise cardiaque en fait à la longue, parce que quand tu te fais vomir, c'est violent pour le cœur, tu te prives de nutriments nécessaires au bon fonctionnement de ton cœur. Donc à ce moment-là, déjà j'y suis plus jamais retournée, mais pour autant j'ai mis du temps à faire la démarche d'aller en voir quelqu'un. Et c'est justement au milieu de mon année STAPS, juste après le moment où je suis partie à Noël me ressourcer et tout. Déjà, ça n'a pas du tout marché parce que j'ai fait crise sur crise pendant les vacances. Par contre, j'ai fait la démarche en janvier 2016, du coup, d'aller voir quelqu'un conseillé par ma mère. Et la chance que j'ai eue, c'est que ça a très bien matché très vite, parce qu'un thérapeute, c'est hyper au feeling. C'est si tu le sens pas, tu vas en voir un autre. Ou alors tu restes, mais du coup la thérapie se passe hyper mal. Moi ça s'est super bien passé tout de suite. C'est une thérapeute gestaltiste, donc c'est un courant, je sais pas trop comment l'expliquer, un courant thérapeutique qui s'axe vraiment sur les émotions. Et à ce moment-là, je pense que c'était exactement ce dont j'avais besoin, parce que je ne savais rien sur mes émotions, je savais juste qu'elles étaient bloquées, et au fur et à mesure de ma thérapie, on a tout débloqué. Enfin, tout s'est décanté. Et je pense que, donc voilà, j'ai fait mon petit bonhomme de chemin en STAPS. J'ai mis du temps quand même, de début 2016. Et je pense que ça s'est vraiment... J'ai commencé à avoir une réelle amélioration l'année d'après, en 2017. Donc à la fin de ma deuxième année de STAPS. Et déjà, je commençais à reprendre confiance en moi. Faut savoir que ce moment-là, j'avais une relation avec un de mes camarades. Donc, j'étais en couple avec quelqu'un qui m'a énormément aidée à reprendre confiance en moi. Forcément, quand t'as une relation, ça aide. Hein. On te dit que t'es belle, on t'accompagne. C'était quelqu'un de très altruiste en plus de ça, donc qui était dans la même filière que moi, donc pour travailler dans la rééducation par le sport avec les handicapés. Donc forcément, c'est quelqu'un d'altruiste. Même si ça n'a pas forcément été très simple, parce que au début de notre relation, ça faisait déjà plusieurs semaines, voire quelques mois qu'on était ensemble, et je me suis dit, donc j'étais encore en plein dans la maladie, je me suis dit, il faut peut-être que j'en parle, parce que je lui en parle, parce que c'est quelque chose qui est présent dans ma vie, c'est quelqu'un avec qui je partage un peu de ma vie. Donc je lui en ai parlé, et son premier réflexe, ça a été de me dire, arrête de te goinfrer. Donc il pensait pas à mal, mais c'est pour dire à quel point la maladie est mal connue. La pathologie, ou en tout cas il y a trop de préjugés qui tournent autour, et enfin voilà. Donc au final je lui ai expliqué, je lui ai dit, mais attends, c'est pas du tout comme ça que ça fonctionne la boulimie. Donc j'ai réussi à lui faire comprendre que c'était pas juste de la volonté d'arrêter de se goinfrer en mode, bon ok, j'arrête de déconner là, c'était les vacances, c'était Noël, j'ai bien mangé, mais non, j'arrête, non, c'est pas comme ça. Je lui ai expliqué que c'était contre ma volonté, que c'était comme quelqu'un qui fume, parce qu'il fumait à l'époque, donc je l'ai pris comme exemple. Quelqu'un qui fume, tu peux pas lui dire arrête de fumer. C'est pas comme ça que ça marche.
C'est pas productif.
Supprime une clope par jour, non, c'est pas comme ça que ça fonctionne. Donc c'est comme ça que j'ai réussi à lui faire comprendre, et au final il m'a accompagnée. Et je pense que ce qui m'a aidée, c'est quand même qu'il m'a dit, on va essayer de t'imposer un rythme de repas. Qu'il faudra pas, donc ça veut pas dire te priver pendant les repas, mais Tu vois, un goûter, par exemple, je me souviens qu'on goûtait tout le temps ensemble. Il savait que ça me faisait plaisir de goûter parce que je suis quelqu'un d'hyper gourmande. Et il m'a dit, par contre, tu manges une clémentine avec. Et en fait, finalement, c'est comme ça que ça s'est instauré, où j'ai retrouvé un rythme, en plus d'une confiance en moi. Et au fur et à mesure, les crises se sont espacées et ont peu à peu disparu.
Et ça, chronologiquement, c'était pendant ta prise en charge avec la psychothérapeute?
Ouais, ouais. En parallèle, là, la psy, aujourd'hui, je la vois encore. Hein. Donc, ça fait 4 ans que je la vois. Aujourd'hui, je la vois une fois par mois et même pas pour les mêmes raisons que ce pourquoi j'avais démarré la thérapie. Mais ça, je la voyais toujours, elle.
Ok.
Et je me souviens même que je me sentais tellement mieux dans mes baskets, avec cette relation, avec ma thérapie, que j'en oubliais mes séances de thérapie. C'est-à-dire que j'arrivais pas, et une demi-heure après l'heure de début de la séance, ma fille, elle m'appelait, elle me dit « bah t'es où ?» Et en fait, c'était même plus un réflexe d'aller la voir, tellement ça allait mieux, en fait.
Ah ouais, je connais ce moment.
Et du coup, bon, au final, on a mis en place un système de rappel au début de la journée, du coup maintenant, j'oublie plus. Mais voilà. Donc, on va dire ouais, 2017, où j'ai commencé à réellement m'en sortir. Par contre, à la fin, ouais, c'est ça. Et après, quand je me suis séparée donc de mon ex, du coup, là, j'ai commencé à avoir peur que ça recommence parce que je perdais mon rythme. Et au final, j'ai réussi à résister et à me dire, ben non, maintenant, faut que tu agisses toute seule. En plus, de toute façon, j'avais toujours ma thérapeute. Faut que tu agisses toute seule. Et... j'ai réussi à résister, et quand on arrive à résister à une crise, c'est tellement, tellement positif pour soi, et ça donne confiance, et qu'au final, bah derrière, ça présage que du bon pour l'avenir, et voilà, c'est comme ça que j'en suis sortie.
Ouais, parce que le moment qui est délicat, c'est le moment où les habitudes changent.
Ouais, exactement.
C'est-à-dire que tu mets en place des mécanismes pour te protéger, pour aller mieux, et si un pilier tombe... Et puis une relation, c'est quand même assez important.
Ouais, surtout quand elle est longue, ouais.
Ouais, c'est ça. Donc quand le pilier tombe, et c'est là, je trouve que c'est bien que tu puisses le dire. C'est, enfin, t'as réussi à garder et à t'en sortir quand même. Moi, la question que je me pose, c'est à quoi ça ressemble une crise de boulimie. Enfin, à quoi ça ressemble ta crise de boulimie, pardon. Comment toi t'as géré ça. Comment ça se passait.
Ben. Alors, même mes crises n'étaient pas, se ressemblaient pas toutes. C'était la plupart du temps, c'était juste, souvent, j'allais m'acheter un paquet de gâteaux que je mettais beaucoup de temps à choisir dans le rayon, et j'allais le manger et après j'allais me purger, me faire vomir du coup. Et des fois, et le plus, ouais c'est ça. En fait, le plus dur, c'était à la fac, toute la journée. T'es en présence d'étudiants qui ont fait forcément beaucoup de sous. Donc, premièrement, ils n'achètent pas des trucs forcément hyper sains. Et ensuite, des fois, souvent, on achète des bonbons, des gâteaux pour le goûter et tout. Et on t'en donne parce que t'es pote avec eux. Et ça engraine un peu le cercle vicieux de la crise de boulimie parce que c'est du sucre. Mes crises étaient allées à 85% sucrées. C'était hyper rare que ce soit du salé. Donc, c'était toutes ces cochonneries, gâteaux, bonbons. Du coup, ça engendrait quelque chose et ça me donnait encore plus envie de sucrer. Et là, il y a l'engrenage dans le cerveau qui se passe. Parce que moi, ça ne vient pas de l'estomac. Hein. C'est pas de l'estomac, c'est pas ta faim. C'est tu as besoin de te remplir. Sauf que tu te remplis, tu te sens mal. Tu culpabilises parce que tu prends du poids. Donc, derrière, tu vas purger. Et au final, c'était comme ça que ça commençait. Donc, soit derrière, j'allais me racheter encore un truc sucré, ou alors je sortais de cours, je rentrais chez moi. Moi, je suis quelqu'un qui marche énormément. Du coup, je faisais une partie du chemin à pied. Et sur le chemin, y a des boulangeries, il y a des carrefours, il y a des Lidl. Et en fait, il y a des moments où je me souviens que je faisais un peu un espèce de périple. Avant d'atteindre ma station de métro, j'allais à la boulangerie, je prends une viennoise au chocolat, je la mangeais. Boulangerie d'après, j'achetais un pain au chocolat, je la mangeais, etc. Jusqu'à ce que je rentre chez moi.
Et t'as quelle sensation quand tu rentres dans la boulangerie? Est-ce que tu te rends compte
ouais.
de ce que tu fais?
Ouais, t'es honteux. T'es honteux, mais... Enfin, moi, je me sentais honteuse. Et tu rentres dans la boulangerie et tu sais très bien, tu dis non, mais tu peux encore sortir, tu peux encore sortir. Mais non, mais tu le fais parce que c'est plus fort que toi, en tout cas, quand tu es au cœur de la pathologie et tu le fais, tu ressors, et bah, t'es pas fier. Hein. Il y a des moments où ça m'est déjà arrivé de finalement donner ma viennoise à un SDF que je croisais sur le chemin. Donc, déjà, ça me déculpabilisait parce que je faisais un demi-pierre deux coups. Je faisais ma BA de la journée, comme on dit. Et en plus de ça, je n'introduisais pas l'aliment dans mon corps et ça faisait un truc de moins qui me faisait grossir. C'est vraiment comme ça que je les réfléchissais. Hein. Et voilà. Après, bien avant, il y a eu des moments où, tu sais, quand tu vas à une réunion familiale, il y a toujours énormément de nourriture. Je me souviens que j'engloutissais, en mode ah, j'aimerais bien goûter ça, je l'aurai pas demain, donc il faut que je le goûte maintenant. C'était vraiment comme ça que ça se faisait. Et il y a des moments où je me sentais tellement mal. Ça aussi, c'est considéré comme, enfin, moi, quelque chose que je considère comme une crise, que tu as quand même conscience que tu es en train de t'empiffrer, littéralement. Et après, tu rentres chez toi. Je me souviens d'une fois, j'étais en Normandie. On avait un anniversaire, donc il y avait plein de choses à manger. J'ai énormément mangé, j'en avais mal au ventre tout le trajet pour rentrer sur Paris. Je suis arrivée chez moi, j'ai purgé. Et entre le moment où j'ai mangé et le moment où j'étais dans ma salle de bain au-dessus de ma cuvette, ben il s'est passé 3 heures de temps quand même. Donc voilà, en fait, mes crises, elles ne se ressemblaient pas toutes.
Et pendant ces 3 heures, tu ne penses qu'à aller vomir?
Exactement.
Ok.
C'est En plus, j'avais hyper mal au ventre parce que j'avais bah, trop mangé. Donc, t'as chaud, t'as mal à la tête. Enfin, c'est horrible. Et ouais, tu penses qu'à ça. Tu te dis, quand je vais rentrer, ça va aller mieux. Quand je vais rentrer, ça va aller mieux. En plus, je vais éliminer ce que j'ai mangé. Enfin, c'est une obsession.
Est-ce que ça va mieux après?
Alors, déjà, il y a différentes situations. Il y a les situations où t'arrives pas à te faire vomir, ça sort pas. Et ça, c'est super frustrant. Parce qu'il faut savoir que, enfin moi en tout cas, quand je faisais plusieurs crises dans la semaine, au bout d'un moment, j'arrivais plus à purger. Et du coup, ça devient une angoisse de se dire, j'ai pas réussi à éliminer ce que j'avais mangé, donc je vais grossir. Et là, ça devient angoissant, ça devient une angoisse, ça devient une obsession de te dire tu vas grossir, tu vas grossir, tu vas grossir, sachant que je passais sur la balance au moins 5 fois par jour, que je fasse une crise ou pas dans la journée, pour vérifier qu'il ne bouge pas, sauf que déjà, donc y a plusieurs écoles, hein. Il y en a qui te disent de te peser le soir, d'autres le matin, à jeun, pas à jeun. Moi je pense surtout qu'il faut se peser au même moment de la journée, voilà. Donc moi je me pèse le matin à jeun. Et par contre, à cette époque-là, c'était tous les jours. Donc, quand tu vois, donc je me pesais avant de me purger, après, et ça m'est déjà arrivé de me dire, non, encore un peu là. Là, c'est encore trop. Et je retournais au-dessus des toilettes.
Ok.
Donc, ça devient, c'est vraiment quelque chose de, c'est obsessionnel, c'est malsain, c'est un cercle vicieux. En plus, t'es toute seule là-dedans, donc. C'est hyper. C'est violent. Violent pour l'esprit et violent pour ton corps. Donc, c'est dangereux, c'est tout ce que tu veux. Enfin, et je me souviens même que. C'est pas facile de dire tout ça quand même. Mais il y a même un. J'en suis arrivée à un point où je savais quel aliment était plus facile à vomir que d'autres. Et même parfois, combien de temps après avoir mangé, enfin manger, c'est même pas manger le terme, c'est après m'être empiffré, combien de temps après c'était le plus efficace d'aller aux toilettes? C'était devenu un mécanisme. Bah, c'est flippant en fait. Là avec le recul, moi j'entends ça, ça me fait peur. Donc c'était devenu. Ça a pris des proportions, mais complètement hallucinantes.
Oui, parce que en fait, je pense que ta vie ne tournait qu'autour de ça.
Exactement.
Donc forcément, tu te mets à réfléchir ce qui va sortir le mieux. Enfin, c'est non, enfin moi je trouve ça cohérent ce que tu dis. C'est alors oui, ça peut se paraître flippant. Encore une fois, si des gens écoutent et font ça, c'est pas non plus parce que plusieurs fois t'as dit un mot qui moi m'interpelle. T'as parlé de honte et du coup tu te sens honteuse, honteuse, honteuse. Ce sentiment, il est fort.
Parce que d'avoir honte de soi, ouais, c'est quelque chose qui est fort.
Ouais. Tu te juges, en fait, tu te juges toi-même. Tu te juges déjà d'avoir cédé à la tentation de t'empiffrer. Tu te juges de céder à la faiblesse, c'est comme ça que je le voyais, d'aller te faire vomir derrière. Et en fait, tu t'imagines au-dessus de la cuvette et tu te dis mais c'est quoi cette situation dans laquelle je me mets moi-même ? Enfin, c'est quand même la position au moment où tu vomis, c'est quand même une situation risible, parce que quand t'es bourré, complètement bourré, et que tu vomis tellement t'as bu, et que t'as tous tes potes autour qui se foutent de toi, et moi j'en entends encore parler, hein, de mes grosses cuites, hein, mais j'ai des copains qui m'en parlent encore, hein. Donc c'est, et ben là c'est la même situation, sauf que t'es le seul à le savoir, le ou la seule à le savoir, mais tu te dis mais si on me voyait, mais qu'est-ce qu'on dirait de moi, comment on me verrait, là j'ai l'impression d'être une merde. Moi, ouais, t'as une vision tellement péjorative de toi-même que, en même temps, tu te mets dans des situations. Enfin, c'est quand même un cercle hyper hyper vicieux. J'arrête pas de le dire, mais tu te mets dans des situations toi-même. Personne ne t'y force, mais tu te contrôles pas. Ouais. En tout cas, pas tant que tu t'as fait les démarches pour te faire soigner. Et en plus de ça, c'est dangereux pour ta santé. En fait, c'est même une forme de mutilation, parce que tu dérègles complètement ton système, le système de ton corps. Je me souviens même, les anorexiques, par exemple, elles ont des périodes d'aménorrhée, elles n'ont plus leurs règles. Moi, je sais que ça me déréglait mes menstruations.
Okay.
Pas énormément, parce que, encore une fois, je pense que je ne suis pas le pire degré de boulimie qui existe, mais ça quand même, jusqu'au stade où je vomissais du sang, où j'avais mes règles qui étaient décalées, alors que je prends la pilule, donc quand t'as la pilule, généralement c'est quand même assez régulier, ça me déréglait totalement, et en plus, encore une fois, à force de te faire vomir, le cœur il fatigue, et au bout d'un moment, ça me rendait paranoïaque même. Quand j'étais à la piscine, enfin en train de faire de la natation, pardon, en STAPS, que tu dois faire 800 mètres le plus vite possible, mon cœur il pompait tellement, je me suis dit, mais un jour, on va me retrouver dans la piscine. C'était inanimé. Alors que pas du tout. Enfin, au final, même aujourd'hui, je suis quand même en bonne santé. Les fois, dès que j'ai eu au moment où je vomissais du sang, par exemple, j'étais chez le médecin, il m'a prescrit une fibroscopie. Donc, que j'ai faite, il n'y avait rien à signaler. Donc, c'était juste dû à l'irritation de ma gorge à force. Mais quand même, ça veut dire que j'ai une plaie ouverte dans la gorge, quoi. Enfin, même si elle est minime, si c'est juste râpé, c'est quand même quelque chose. Ça brûle. Et concernant le cœur, je me souviens que je sentais à un moment des souffles chauds dans le cœur. C'était un peu bizarre, comme si mon cœur était en stand-by. J'étais, enfin, pas arrêté, mais je crois que ça s'appelle une extrasystole au final. Donc, c'est pas du tout grave. Je sais même pas si c'est dû à ça. Et encore, le cardiologue, parce que du coup, j'ai été voir un cardiologue. Et ça, c'était récent. C'était l'année dernière que j'étais voir. Il m'a dit que c'était dû à l'acidité de la nourriture, etc. Et je lui ai dit, mais moi, j'ai un passif de boulimie. Qui me dit, bah voilà. Donc, ça a quand même un effet. C'est pas à prendre à la légère.
Et moi, il y a un sujet qui m'intéresse aussi. On va sortir un peu de ce que tu disais. C'est que quand on se renseigne sur la boulimie, je me suis pas mal renseigné avant de faire cet entretien, on parle beaucoup des femmes.
Ouais.
Donc les troubles du comportement alimentaire sont liés majoritairement aux femmes, même s'il y a des hommes qui sont concernés. Est-ce que tu penses que le fait que tu sois une femme joue dans le fait que tu sois boulimique?
Oui, c'est même sûr. Après, effectivement, on a l'impression que l'anorexie, la boulimie, par exemple, ça touche beaucoup plus les femmes. Mais c'est peut-être vrai. Les femmes, parce qu'en fait l'image de la femme, on voit surtout l'image de la femme idéale et même pas forcément de l'homme idéal, parce que t'as tous les magazines féminins qui te montrent des mannequins, aujourd'hui un peu moins quand même, mais c'est rare de voir des photos de femmes en surpoids, bien qu'elles soient très jolies, parce que c'est pas l'idée que la société a de la femme idéale. Donc oui, ça joue. Après, les troubles du comportement alimentaire, je pense qu'il y en a qui vont plus concerner les femmes, d'autres qui vont plus concerner les hommes. Je pense à l'anorexie inversée par exemple.
Tu peux expliquer ce que c'est
l'anorexie? Si je me trompe pas, parce que je suis pas spécialiste, c'est le fait de justement vouloir prendre de la masse musculaire et du coup manger protéines, viande blanche, etc. Mais à un point, c'est pareil, si tu manges que ça, ça te déglingue le système immunitaire. Et c'est ça l'anorexie inversée, c'est le fait de prendre le plus de masse musculaire possible.
Okay. Je connaissais pas moi personnellement.
Voilà. Mais après, il y a plein de troubles du comportement alimentaire, il y a l'orthorexie, la bigorexie, dont on n'entend pas du tout parler. Mais voilà. Mais le fait d'être une femme, personnellement, oui, ça m'a complètement, je pense, influencée. Parce que, donc, moi, je ne m'intéressais pas du tout à l'image de mon corps avant mes 16 ans, on va dire. Jusqu'à ce qu'on me dise... jusqu'à ce que je perde du poids de manière complètement involontaire. Et qu'on me dise, oui, t'es jolie, oui, ça te va bien. Et en fait, quand j'étais petite, j'étais plutôt garçon manqué. Et je vais remettre dans le contexte. Les TCA, on dit que c'est souvent, ça vient souvent de la mère. Étrangement ou pas, ça a peut-être des statistiques qui le prouvent et tout, mais bon, les statistiques, c'est quand même contestable. Moi, je suis pas d'accord pour en faire une généralité. Je pense pas que ça vienne de ma mère, parce que ma mère ne m'a jamais foutu la pression concernant l'image de mon corps, mon poids, même vestimentaire. Par contre, tous les étés, moi, j'allais, depuis que je suis née, je vais chez ma marraine. Ma marraine, qui est une très belle femme, qui a deux jumelles qui sont très jolies aussi, qui sont l'opposé de moi, parce que elles sont brunes, elles sont grandes, elles sont bronzées. Moi, je suis blanche, les blondes aux yeux verts, sportive, plutôt jean basket que talon et tailleur. Mais je sais que quand j'étais petite, à l'époque, quand j'étais garçon manqué, elles essayaient un peu de me transformer en fille. Donc, à ce moment-là, ça ne m'impactait pas vraiment, mais quand je suis rentrée au lycée et qu'on m'a dit... que c'est elle, en fait, c'est ma marraine qui m'a dit « Mais t'as perdu du poids, ça te va bien, t'es jolie comme ça. » Et je me souviens que quand du coup, pendant plusieurs années, quand j'en ai chez elle, j'essayais de lui plaire à elle. Un peu comme si... je voulais lui plaire. Je me disais « J'espère que je vais lui plaire. » Qu'elle va pas me dire que j'ai grossi, alors que ça se trouve, elle me l'aurait même pas dit, mais quand même, ça, c'est le cas. Hein, mais... Et du coup, ça, c'était devenu un peu une prise de tête annuelle, parce que généralement, je les vois que l'été, et ça a énormément joué, je pense. C'est pas leur faute, ça partait pas du tout d'un sentiment malveillant. Je pense que c'était pour bien faire, elles pensaient bien faire, il y a aucun problème, je reproche rien. De toute façon, c'est moi aussi qui ai interprété de ma propre vision, parce que c'est mon aperçu de la vue de ma fenêtre. Mais effectivement, le fait d'avoir voulu me rendre fille, ça, aujourd'hui je le suis, hein, je suis plus féminine qu'avant, enfin selon les normes, aujourd'hui ça va très bien, je les vois sans problème, je suis bien dans mes baskets, on est toutes les trois très jolies, mais chacune à notre sauce. Mais pendant une époque, je me sentais pas du tout à la place et je me sentais mal à l'aise par rapport à elle. Donc je pense que ça, plus le mal-être que j'ai eu en terminale et tout, ça a été un surplus et ça a vachement joué. Donc oui, la féminité, complètement.
En fait, je te pose cette question, elle n'est pas anodine, parce que c'est vrai que tu en as parlé dans ta réponse, la société donne l'image idéale de la femme. Alors, donne l'image aussi idéale de l'homme, mais les hommes, on arrive plus à se détacher de cette image.
Ouais.
Alors que, de mon point de vue, les femmes ont tendance à se comparer. C'est ce que tu disais dans ta réponse.
Mm.
Et en fait, la société a complètement à voir avec le fait que les anorexiques, les boulimiques et plein de troubles du comportement alimentaire sont majoritairement liés aux femmes.
Ouais.
Parce que la minceur... Alors, évidemment, ça l'est beaucoup moins parce qu'il y a eu des actions aussi pour que la société change. Et elle change, et c'est tant mieux. Mais il y a encore quelques années, sur les plateaux, sur les défilés de mode, il était hors de question de voir une personne ronde.
Non, c'est clair.
Maintenant, on a des mannequins grande taille qui défilent, on a des magasins grande taille qui existent, et je trouve que c'est bien, c'est positif. J'ai un peu digressé sur le sujet, mais moi, c'est un sujet qui m'intéresse beaucoup. Et la société... Elle est très dure avec les femmes, avec le comportement alimentaire.
Ouais, je suis d'accord avec toi. Le pire, c'est que ce qui m'a aussi aidé à prendre du recul sur ma propre vision de mon corps à moi, c'est de me dire, mais en fait, forcément, dans ta maladie, tu rencontres énormément de gens. Et les deux nanas que je trouve les plus jolies que j'ai jamais rencontrées, c'est des nanas rondes. Vraiment. Alors qu'il y en a qui sont hyper bien fichues, entre guillemets, parce qu'elles sont proportionnelles, tout ce que tu veux, ventre plat, mais... Les nanas auxquelles je pense là, c'est vraiment des femmes magnifiques, mais qui ont plus de forme que moi, ça c'est sûr, sans être énormes au sens dont on imagine, mais effectivement, c'est C'est dommage quand même que la société veuille faire introduire dans les esprits que l'image de la femme idéale, c'est une femme mince, proportionnelle et tout, ce que c'est pas vrai. C'est un peu cliché ce que je vais dire, mais ce qui fait la beauté de chacun, c'est la particularité de chacun. Donc, tu vas toujours plaire à quelqu'un de toute façon. Il y en a pour tous les goûts, comme on dit. Donc...
Tout à fait.
Donc, c'est vrai que cette société un peu vicieuse joue beaucoup sur les TCA, malheureusement, et pas que d'ailleurs. Parce qu'elle joue sur les esprits sans passer forcément par les TCA, mais. Après, les hommes, je pense qu'il ne faut pas quand même les exclure des TCA parce que, en fait, la TCA, ça ne vient pas de base de l'image de toi-même. Le trouble du comportement alimentaire, ça peut venir d'un truc qui n'a rien à voir. Ça peut venir de ta grand-mère alcoolique quand tu étais enfant, qui n'a rien à voir avec l'image de toi-même. Je dis ça parce que c'est un peu mon histoire aussi, donc ça vient énormément de ma grand-mère. Donc, mine de rien, c'est quand même un aspect maternel. Mais contrairement à ce que je disais tout à l'heure, mais le trouble du comportement alimentaire, c'est l'aspect émergé de l'iceberg. J'ai du mal avec les deux mots. Donc, ce qu'on voit, c'est le trouble du comportement alimentaire. Et c'est la conséquence de toute la partie immergée de l'iceberg qui peut n'avoir mais rien à voir. Ça peut avoir un lien avec, je sais pas. J'ai pas d'exemple là comme ça, mais qui n'a rien à voir avec l'image du corps ou la nourriture. C'est juste un mal-être qui s'est développé et pour avoir à t'accrocher à quelque chose, il y a le TCA. Et moi, c'est comme ça que je l'ai vécu. Je pense que j'étais pas bien, j'avais besoin de me rattacher à quelque chose, besoin de fuir, besoin de. Peut-être d'avoir le contrôle sur quelque chose. Parce que quand tu te nourris et que tu vomis, t'as contrôlé de A à Z ce que t'as mangé et aussi ce que t'as fait sortir de ton corps. Et d'ailleurs, je crois que c'est aussi pour ça. Les anorexiques, quand elles quand elles ne mangent pas, qu'elles résistent au fait de manger et tout, c'est aussi tout cet aspect-là du contrôle. Donc, je pense que ça peut venir aussi beaucoup de là, en tout cas.
Et t'en as un peu parlé tout au long du podcast, mais aujourd'hui, comment ça va? Est-ce que c'est complètement parti? Est-ce que t'estimes actuellement que la boulimie, ça fait plus partie de ta vie? Ou t'es encore complètement dedans, ou alors ou pas. Enfin, comment tu le vis aujourd'hui, ta boulimie?
Je pense qu'aujourd'hui, la boulimie, la pathologie, elle fait partie de mon passé. Après, je pense que malheureusement, c'est quand même, vu que ça fait partie de ton histoire, c'est quand même un sujet, comment dire, c'est un antécédent de santé qui a eu un effet sur ton corps. Donc après, plus ou moins en fonction des personnes. Moi, je pense qu'en termes de santé, ça va. Ça n'a pas de conséquences. Mais quelqu'un qui a été anorexique pendant un certain temps ou même un boulimique pendant 10 ans, parce que j'ai eu des témoignages où c'était 10 ans, je pense que ça reste. Ton corps, il doit être un peu meurtri. Donc c'est quelque chose qui fait forcément partie de ta vie jusqu'à la fin de ta vie. Maintenant, moi, personnellement, aujourd'hui, la boulimie, j'en suis guérie, j'en suis sortie. Par contre, ça peut m'arriver, de manière très espacée, mais ça peut m'arriver de faire des crises de boulimie. Je pense que c'est important à dissocier. C'est-à-dire que réaction au stress, je vais manger et du coup, je vais me dire « Ah bah non !» Et ça m'est déjà arrivé, même récemment, hein, je l'avoue, je ne suis pas fière de moi, mais de faire des crises de boulimie. Mais je suis guérie, c'est-à-dire que je peux encore avoir le contrôle sur le fait de me dire « Certainement pas ma cocotte, aujourd'hui, t'en fais pas, même si là, t'en as l'envie. » Je sais reconnaître un peu la manière dont ça démarre, même totalement, puisque j'en sors. Et du coup, j'ai la maîtrise dessus. Et aujourd'hui, ouais, j'en suis sortie. Par contre, l'aspect de confiance en moi, par exemple, il est encore difficile aujourd'hui. Il y a plein de trucs sur lesquels je vais douter de moi. Mais par contre, dissocier de l'aspect de mon corps ou la nourriture. Là-dessus, je suis tellement plus libérée. Enfin, je ne me prends plus la tête. Si j'ai envie de me faire de burgers de suite, je le fais sans me dire que c'est une crise de boulimie, parce que c'est aussi très très compliqué de se dire là, faire la différence entre le fait de te faire plaisir et le fait que c'est une crise. Il y a cette différence-là qui est dure à choper. Moi, je la chope, je sais que c'est bon, je sais faire la différence. Donc c'est vraiment énormément de progrès, mais je ne considère pas en être totalement sortie pour autant, même si je suis guérie, parce que ça me suit, enfin je ne sais pas comment, c'est pas trop trop clair, mais j'en serais totalement sortie quand j'en ferais plus du tout des crises. Je pense que la pathologie aujourd'hui, j'en parle sans problème. À des gens que je connais pas, si ça vient dans la conversation, ça viendra. Alors qu'avant, j'en parlais pas du tout. C'est complètement assumé. Euh, je, je pense que mon travail dessus est terminé. Et voilà. Après, il y a quelques antécédents encore, mais c'est des choses... quelques antécédents, pardon, quelques conséquences. Mais ça fait partie de mon passé. Et aujourd'hui, j'ai pas honte d'être boulimique. D'avoir été, pardon, boulimique. Qui la suce quand même. D'avoir été boulimique. Ça fait partie de mon passé. C'est ça qui m'a construit. Aujourd'hui, j'en parle. Et ça va être même... c'est même moteur de projet que je vais avoir pour l'avenir. Donc... Je vais pas dire que je suis contente d'avoir été passée par... d'être passée par là, pardon. C'est quand même... ça construit.
Mais tu t'en es même pas rendu compte, mais tout à l'heure, alors pendant tout le podcast, je te l'ai dit, t'as dit la honte. Là, tu viens de dire que t'avais des fois des crises de boulimie et t'as dit pas fière de moi.
Ouais.
Déjà, le langage est pas le même.
Non.
Non, mais je trouve que c'est un beau résumé de l'évolution. Est-ce qu'il y a un autre sujet que tu voudrais aborder? Parce que je vois que tu as un petit post-it devant toi. avec les...
ouais,
ce que tu as envie d'aborder, est-ce qu'il y a des choses qui manquent?
Non, après, je voudrais vraiment appuyer sur le fait que c'est vraiment quelque chose... Bon, après, si les gens écoutent le podcast, c'est quand même qu'ils sont intéressés. Mais c'est quelque chose qu'il ne faut vraiment pas négliger. La boulimie, ce n'est pas quelque chose qu'il faut associer automatiquement à l'anorexie ou même à l'hyperphagie, qui sont les trois gros TCA qui forment le terme TCA, au final. Ce n'est pas du tout la même chose. Un anorexique va pouvoir passer par la boulimie avant ou après son anorexie. La boulimique va pouvoir passer par l'anorexie avant ou après sa boulimie. Mais c'est vraiment deux pathologies complètement distinctes qui n'ont pas les mêmes effets. Selon moi, l'anorexie va avoir de gros dangers. Alors, mentaux, ça c'est clair. Et aussi physique, parce que c'est très traumatisant pour le corps. Donc c'est ça généralement qui amène à l'hospitalisation, parce qu'en fait le corps n'a plus l'énergie suffisante, c'est source de malaise, même de crise cardiaque et tout, que la boulimie va y avoir surtout un aspect psychologique et aussi santé physique, mais je pense quand même un peu moins, mais les deux sont à considérer avec autant de danger et autant de délicatesse, parce qu'un boulimique est très dissimulateur. Moi, je sais que j'ai fait des crises en ayant quelqu'un dans mon appartement au même moment, sans que la personne ne les remarquait. C'est-à-dire que c'est pas très écolo. En plus, t'allumes tous les robinets possibles pour pas que ça s'entende. Et donc, tu restes tout seul. Et au fur et à mesure, y en a qui arrivent jusqu'à se suicider tellement ils se sentent seuls. Et il faut savoir que j'en avais parlé avec une intervenante en activité physique adaptée qui travaille auprès de personnes atteintes de TCA. Et elle m'a dit, mais un boulimique, enfin les boulimiques, c'est 100% de taux de réussite de suicide. Un boulimique, il suicide. Il se loupe pas, et c'est horrible à dire, mais c'est quelque chose dont il faut avoir conscience. Parce que... c'est grave, quoi. On n'est pas assez pris en compte, malheureusement. Ou alors, on est trop caché derrière l'anorexie, justement, parce que... je te l'ai dit à toi tout à l'heure, mais j'ai regardé des vidéos. J'ai essayé de chercher des choses. Et tu vois beaucoup de témoignages anorexiques sur tout ce qui est Combini, Brut, je sais plus, mais j'ai vu Combini, Nous Sommes Fraîches, et d'autres médias. Mais j'ai cherché sur ces mêmes médias la boulimie, j'ai rien trouvé, quoi.
Bah pour aller un peu dans ton sens, moi, pour préparer cet entretien, j'ai voulu aller à la FNAC pour trouver des livres. J'ai eu beaucoup de mal à trouver de livres qui parlaient que de boulimie. C'est-à-dire que... En fait, tu m'en avais déjà parlé, c'est pour ça que j'étais un peu... c'est pour ça que je pense que j'ai cherché que de la boulimie, parce que tu m'en avais parlé au téléphone avant que j'aille à la FNAC. Tu m'avais dit, moi, je veux parler de la boulimie et je veux bien dire que c'est différent de l'anorexie, ce que tu m'as dit. Et donc, j'ai cherché quelque chose qui traitait vraiment que de la boulimie et c'est très compliqué.
Ouais.
Par contre, des livres d'anorexie, ça, il y en a plein.
Ça, c'est...
J'aurais eu aucun problème à trouver des livres d'anorexie. Par contre, boulimie, j'en ai trouvé trois, ils sont sur la table devant toi. Et c'est les trois qu'il y avait à la FNAC et j'ai dû faire deux FNAC.
Quand même.
J'ai fait deux FNAC pour trouver trois livres qui parlent de boulimie. De toute façon, je mettrai les liens des livres en description. Et toi, t'as d'autres livres ?
Ouais. En fait, l'année dernière, a commencé à a germé une, dans ma tête le fait de faire une sensibilisation sur les TCA. Et je me suis dit que j'aimerais bien lire des... Bon, après, plus approche boulimie, du coup, les livres que j'ai lus, mais lire des livres sur le sujet. Mais justement, je voulais pas du tout de trucs scientifiques. Donc, je me suis renseignée sur Internet et j'ai trouvé... Alors, sachant qu'avant, on m'avait déjà parlé d'un livre qui s'appelle « Bianca » de Loulou Robert, que je conseille à tout le monde. C'est une copine qui le lisait, justement... qui est quand même assez accessible. Donc, c'est une anorexique qui raconte son parcours. Et c'est très intéressant. C'est hyper... je vais pas dire humour noir, mais c'est un peu cynique. Enfin, elle a, la narratrice, parce que je suis pas sûre que ce soit l'auteur, a beaucoup de dérision d'elle-même et tout. Mais ce livre est vraiment hyper intéressant et très accessible pour n'importe qui. Et m'en lire tout simplement, même sans forcément sur ce sujet. Après, j'ai lu deux livres de Valérie Rodrigue. Donc ces deux-là, j'ai eu du mal à les trouver parce qu'ils sont pas à la FNAC justement. Ils sont tellement vieux que je les ai trouvés sur Amazon. Mais bon, tant mieux, je les ai trouvés à 2 euros au lieu de leur prix initial. Donc il y a La peau à l'envers, qui est en fait, elle utilise d'autres prénoms. Mais c'est son histoire à elle, de ce que j'ai compris. En fait, tu le comprends en lisant son deuxième livre, La peau à l'envers. Donc là, c'est purement une histoire de boulimique. Et en fait, ces deux livres, comme je disais au tout début, c'est. J'arrivais pas à mettre des mots sur mes émotions. Et en fait, les quatre livres dont je vais parler, enfin, j'en ai déjà parlé deux, mais j'ai surligné toutes les choses. Où je me suis dit, mais c'est ça que je voulais dire, c'est ça que je ressentais. Et donc, j'ai plein de stabilos dans ses romans. Donc, il y a La peau à l'envers de Valérie Rodrigue. Ensuite, elle a lu, elle a écrit un autre roman, mais beaucoup d'années plus tard, qui s'appelle Lettre à une jeune affamée. Et là, tu comprends qu'elle est passée par l'anorexie et la boulimie. Mmh. Et ensuite, il y a un autre livre d'une auteure que tu connais peut-être qui s'appelle Delphine de Vigan. Alors il y en a qui la connaissent, d'autres qui la connaissent pas, mais elle est quand même assez connue et elle a lu, elle a écrit Jour sans fin et après elle a écrit plein d'autres romans, mais c'est le seul en tout cas qui porte plutôt sur l'anorexie aussi. Mais du coup c'est quand même des romans forts qui permettent de comprendre un peu ce qu'un boulimique peut vivre, même si c'est pas la même histoire pour chaque TCA. Mais ces quatre livres qui sont très intéressants à lire, je te renverrai les titres. Ouais. C'est plutôt des témoignages sous forme... c'est romancé. C'est pas du tout scientifique ou quoi. C'est une histoire, quoi. Mais c'est plutôt témoignage, sachant que même Delphine de Vigan, il me semble qu'elle a été anorexique. Et mais elle, c'est pareil, je crois qu'elle utilise d'autres prénoms. Enfin, En tout cas, il n'y a pas Delphine qui apparaît dans le livre. Donc, elle utilise d'autres prénoms, mais c'est son histoire qu'elle raconte.
Ok, très bien. Bah, je mettrai en description du podcast toutes les références au livre...
Carrément.
T'as d'autres choses à dire ?
Là, comme ça, non, c'est...
Ok. Je t'avais prévenu en amont du podcast. Je t'avais demandé de préparer une carte blanche. Donc, c'est un peu le moment sans montage, où je te coupe pas, où je te laisse parler.
Ouais, du coup, donc moi, je reste dans le thème. J'ai rencontré il y a peu Céline Casse, qui est la fondatrice d'une plateforme qui s'appelle Stop TCA, donc Stop Trouble du Comportement Alimentaire, qui est une plateforme qui permet à des patients de bénéficier de thérapies, entre autres, je ne me souviens plus de la totalité, mais en fait, cette dame, elle recrute pas vraiment parce que c'est des prestataires qui ne travaillent pas que pour elle, ils font autre chose, mais des professionnels spécialistes des TCA qui proposent leurs services pour des patients qui, de manière à distance en fait, par téléphone ou par visioconférence. Et du coup, elle m'a déjà dit, c'est tout bébé, hein, ça a 4 mois, c'est tout récent, mais elle a déjà eu plusieurs patients, dont certains qui viennent des dom-tom, pardon. Donc c'est vraiment... réseau français, mais ça peut être partout sur le territoire. Donc c'est super intéressant. Après, ça nécessite forcément avoir déjà conscience pleinement de sa pathologie et d'avoir fait la démarche de se faire traiter, sachant que c'est quand même le plus gros travail, hein, de l'avoir accepté et d'aller vers un professionnel, enfin vers une personne tierce. Mais du coup, je conseille. Moi, j'ai pas eu à tester parce que j'en étais déjà sortie avant. Mais voilà, j'espère pouvoir travailler avec elle d'ailleurs sur une sensibilisation éventuelle. Mais voilà, donc je vous conseille d'aller voir, je te redonnerai le site pour que tu puisses le mettre dans la description, parce que là je l'ai plus en tête précisément. Mais en plus c'est super attractif, il y a des couleurs, c'est instinctif aussi d'aller visiter un peu, puis même par curiosité c'est intéressant. Moi j'ai déjà fait le tour et c'est quand même assez bien fait.
Et est-ce qu'une personne, justement, qui écouterait ce podcast et qui se reconnaît dans ton histoire ou plus ou moins dans ton histoire, est-ce qu'elle pourrait consulter pour avoir un avis et savoir si elle souffre ou il souffre de troubles du comportement alimentaire?
Tout à fait. C'est ouvert. Si on se pose la question, on y va. Et puis si jamais il s'avère que c'est autre chose, les professionnels qui quand même traitent pas que ce sujet-là vous redirigeront les sceptiques, comme on pourrait les... Non, mais ceux qui se posent la question, mais tout à fait. Sachant que j'ai oublié de le préciser, mais cette plateforme, elle accompagne aussi les proches des patients.
Ah, c'est bien ça.
Parce que j'en ai pas parlé, mais les proches sont quand même assez désarmés et ne savent pas, sauf s'ils sont passés par là aussi, mais de quoi il s'agit. Et généralement, ils sont complètement dépourvus, ils ne savent pas trop comment agir, s'il faut forcer le patient ou pas à aller voir quelqu'un, ou s'il faut au contraire lui laisser champ libre. Enfin, je pense que ça peut être très intéressant pour les proches de pouvoir bénéficier de cette aide-là aussi, parce que moi, je sais que mes parents, ils s'en doutaient vraiment pas. Enfin, je pense qu'ils ont été assez surpris. Ma mère en avait parlé à son conjoint de l'époque qui lui m'a dit mais j'aurais jamais deviné, enfin pourquoi, comment. Donc c'est vraiment très désarmant quand on apprend ce genre de pathologie qui en plus est tellement peu connue qu'elle peut faire peur mine de rien, et quand on en apprend les conséquences, bah ça fait encore plus peur. Donc c'est bien aussi de pouvoir bénéficier de professionnels qui accompagnent les proches dans la thérapie dans le soin du patient.
Ok, trop cool. Bah je mettrai toutes les infos en description du podcast. Je vous invite à aller voir ce site et moi, j'irai aussi. Merci beaucoup d'avoir participé à ce podcast. C'était
merci
trop
à
cool.
Toi.
Salut Marion.
Salut Théo.
Voilà, c'était le deuxième épisode d'Ata Santé. Je remercie Marion d'avoir participé. Merci à elle pour sa confiance et merci à vous de nous avoir écoutés. Vous retrouverez tous les liens et les références citées en description. Vous pouvez partager et commenter cet épisode. Je compte aussi sur vous pour laisser plein d'étoiles sur iTunes. Ça permet un meilleur référencement du podcast. Enfin, merci à Maxime Martin pour l'identité visuelle du podcast et pour ce magnifique logo qui me représente si bien. Je vous mets son contact en description. Si vous souhaitez partager votre expérience, n'hésitez pas à me contacter via mes réseaux sociaux ou par mail, je me ferai un plaisir de vous répondre. Je vous dis à dans un mois pour le prochain épisode. Salut! Super!
Trop chouette, on a trop bien fait de...
Ouais, ah, c'est le deuxième est beaucoup mieux.
Oui, clairement.
Ouais, niveau technique, ça va.
Ouais.
Non, mais ouais, je trouve que t'as parlé beaucoup mieux.
C'est plus fluide.
Ouais, c'était beaucoup plus fluide. Mais c'est hyper intéressant, je pense que...
En plus, là, j'ai donné plein d'anecdotes.
Ouais.
Donc peut-être...
Non, mais c'est bien. Et même, je pense, en fait, j'y pensais pendant qu'on tournait, mais... Si des professionnels de santé écoutent, parce que je pense que ça va être les gens qui vont m'écouter, je ne sais pas trop encore, c'est le début, mais si des professionnels écoutent et peuvent identifier ça chez des patients, ça peut être cool.
C'est dur à identifier. Après, j'ai pas parlé des signes physiques, mais même pour moi-même, c'est pas compliqué.
Ah, mais d'où l'intérêt.
Mais ouais, j'ai oublié de parler, parce que j'ai eu des idées noires aussi, mais bon, c'est pas ça, je pense qu'ils sont d'autres.
Ouais.
Oh, mais c'est chouette. Ah, merci d'avoir vraiment recommencé, parce que là je me sens mieux.
Bah alors, moi aussi. Ouais, vraiment le...
Bah, c'était plus naturel là.
Ah mais tu t'es rendu compte?